Ça ce matin. On continue dans notre série « Les disciplines de la grâce ». Pourquoi est-ce qu'on commence l'année 2021 avec cette idée-là des disciplines de la grâce? Bien, c'est parce que cette année, en 2021, comme Église, nous désirons grandir, vraiment grandir dans la grâce. Et j'aimerais ça vous lire un verset très court dans 2 Pierre 3:18 qui exprime mon désir pour l'Église de l'espoir, ma prière pour l'Église de l'espoir. Dans 2 Pierre 3:18, on lit ceci. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Quel beau verset, vraiment. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est ma prière pour toute l'Église de l'espoir. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pourriez vous joindre à moi cette année et demander à Dieu que comme Église, nous puissions grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les gens de prière dans l'Église, on a des hommes et des femmes de prière. Est-ce que vous m'entendez? Je vous demande de vous joindre à moi, qu'en Église, on puisse prier afin que comme Église, on puisse grandir dans la grâce ensemble et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voici, la prière est toute simple. Que Dieu nous accorde de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça notre désir. En 2021, on veut marcher selon l'Esprit. Pas par nos propres forces, pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Puis avec la série, on a vu ensemble comment aller dans les Écritures quotidiennement, c'est aller se reposer dans la grâce, c'est aller puiser des grâces pour ma journée, où je m'en vais rencontrer mon Dieu. Demain, quand je m'en vais dans mon lieu secret, dans mon lieu de prière, seul avec mon Père, je m'en vais recevoir des grâces quotidiennes dans cet endroit de communion avec mon Père où je vais lui exprimer mon amour, mais je vais tout simplement l'adorer. Je vais laisser l'Esprit venir déposer dans mon cœur cette conviction profonde que je suis un enfant de Dieu. Maintenant, cette semaine, on poursuit et on va parler de 2 symboles. Les 2 symboles que Christ a laissés à son Église, qui sont pratiqués depuis 2000 ans et qui servent vraiment à nous rappeler que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes dans sa grâce. Et c'est pour ça qu'on peut marcher par l'Esprit. C'est le baptême. Et il nous a donné le repas du Seigneur qui sert à nous rappeler régulièrement qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et à travers ces 2 symboles-là, on va pouvoir aborder la question de notre union à Christ. C'est une des vérités bibliques les plus réconfortantes. C'est une des doctrines, une vérité des Écritures les plus riches pour apprendre à se reposer. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'encouragement dans cette vérité-là que nous sommes unis à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Est-ce qu'il est en train de parler de quelque chose qu'il rêve de voir se réaliser? Ou est-ce qu'il est en train d'affirmer quelque chose qui est déjà réel dans sa vie? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et on va chercher à répondre à cette question-là parce qu'il y a énormément d'encouragement pour notre foi. Et qu'il y a énormément d'encouragement à apprendre à se reposer dans la grâce de Christ en 2021 ensemble pour qu'on puisse grandir dans sa grâce ensemble. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, tu as tout pourvu en Jésus-Christ. Seigneur, tu as tout pourvu pour notre éternité, mais tu as tout pourvu pour notre présent aussi. Et tu as donné à celui qui place sa foi en ton Fils, Père, tu lui as donné d'être en Jésus, d'être uni intimement à ton Fils, par la puissance de l'Esprit de Christ qui vient faire sa demeure en nous. Seigneur, je sais que tout ça peut sembler intangible, ça peut sembler bon pour les intellos, bon pour les philosophes, bon pour les poètes, Seigneur, mais c'est bon pour chacun de tes enfants. Cette vérité biblique est réconfortante, elle est encourageante, elle vient nous fortifier, elle nous aide, Seigneur, à nous appuyer sur toi, pas sur nos propres forces. Elle nous aide à espérer en toi plutôt qu'espérer en nous-mêmes, Seigneur. Je te prie dans ta grâce, Seigneur, de m'aider à être clair, à prêcher véritablement ta parole, mais surtout que ton Esprit qui habite en nous vienne faire une œuvre puissante et que nous puissions expérimenter et grandir dans la réalisation de cette union avec toi, Jésus. Tu es bien en moi par ton esprit. Et ton œuvre est là. Et je te prie pour toute personne qui va écouter ce message, qui va dire, moi, je suis seul. Je suis seul parce que Dieu est peut-être là, mais il n'est pas, certainement pas en moi. Je te prie, Seigneur, de venir lui révéler l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qu'il peut être uni à toi, Jésus, pour l'éternité et dès maintenant. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Les passages bibliques de ce matin sont tirés de Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20, et de Romains chapitre 6, versets 1 à 10. Dans la nouvelle version de Genève, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit.
Merci Julie. Comme je le mentionnais, Jésus a laissé deux symboles, on peut dire deux rites, deux rituels chrétiens. Ils sont symboliques, ils sont là pour nous rappeler des choses, ils sont là pour nous aider à réaliser ce qui se passe spirituellement entre Dieu et nous et en nous aussi. Ils sont super importants, ça nous aide à entrer dans notre identité comme chrétien. Il s'agit du baptême puis du repas du Seigneur. Le baptême, on le pratique une fois dans notre vie pour symboliser une vie nouvelle dans laquelle nous entrons. Mais une vie nouvelle qui entre en nous aussi. Et puis le repas du Seigneur, bien, chaque église a ses traditions. Alors ici, à l'Église de l'Espoir, quand on n'est pas en pandémie ou avec les mesures sanitaires, bien, on le fait une fois par mois. Et c'est important parce que ça nous ramène à ce que Christ a fait pour nous, à ce que nous sommes en lui. C'est extraordinairement précieux, c'est très, très riche pour nous. Et on chérit ces symboles-là. Le jour de ton baptême est un moment important. Parce qu'il illustre une réalité spirituelle qui s'est produite en toi. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, pour nous, c'est solennel. Parce qu'on est en train de se rappeler de la plus belle chose qu'un être pouvait faire pour nous, donner sa vie pour nous et venir produire cette vie-là maintenant en nous. Et on va explorer ça ensemble un peu ce matin. Parce que ces deux symboles-là, même si on ne les fera pas ce matin, ces deux symboles-là représentent notre union à Christ. Il représente beaucoup d'autres choses. C'est des symboles qui sont riches, qui nous aident à comprendre beaucoup d'aspects de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour nous, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Mais un des aspects, c'est cette union que nous avons avec Jésus-Christ. Et je sais que pour plusieurs, c'est assez abstrait, c'est assez obscur, puis pourtant, c'est vraiment une vérité biblique qui est tellement riche, qui est tellement apaisante, qui est tellement enrichissante, et on est appelé à grandir dans la réalisation du fait qu'on est vraiment un avec Christ parce que Christ est en nous. L'apôtre Paul dit, comme je l'ai mentionné tantôt dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce qu'il est en train de parler d'un effort personnel, de faire une abnégation totale de sa personne, puis devenir quelqu'un d'autre? De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'une vie réelle à l'intérieur de nous, quelque chose de nouveau, de surnaturel qui se produit en nous? Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'Évangile, ce n'est pas seulement un pardon reçu, ou encore un modèle qu'on est en train d'essayer d'imiter, un modèle à suivre, c'est une vie nouvelle en moi. C'est Christ qui vit en moi. Le baptême et le repas du Seigneur sont les symboles qui nous rappellent cette grâce. Je répète ça. L'Évangile, ce n'est pas seulement un pardon qu'on reçoit, qui nous est remis. C'est plus que ça. C'est pas simplement un modèle qu'on essaie d'imiter ou on essaie d'imiter Christ. C'est ça, mais beaucoup plus encore. C'est une vie nouvelle à l'intérieur de moi. C'est Christ qui vient vivre en moi. Et ces deux symboles-là que Dieu a laissé à son Église, que Jésus a laissé à son Église, sont là pour nous rappeler cette grâce qui est la tienne si tu es en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va parler du baptême ensemble, mais on va commencer par parler de notre union à Christ. C'est intéressant, lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, bien, Jésus nous donne un mandat, il nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Puis quand tu lis le Nouveau Testament, il n'y a pas de programme de formation de disciples. Il n'y a pas de programme. On a un mandat, on doit aller faire des disciples, on doit leur enseigner tout ce que Jésus a enseigné, mais il n'y a pas vraiment de programme. Puis plus tu lis l'apôtre Paul dans ses lettres, plus tu réalises qu'il n'y a pas de programme. Ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il met au défi ses lecteurs, ses auditeurs, à vraiment entrer dans cette réalité, à prendre conscience de leur nouvelle identité. Donc, on a des programmes de formation de disciples, mais ils servent à une chose essentiellement, c'est nous aider à découvrir qui on est. Parce qu'on marche à la suite de Christ par la puissance de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et donc, ce n'est pas à force de programmes qu'on va vous enseigner comment être un bon petit chrétien. Il n'y en a pas de bon petit chrétien. Nous sommes des criminels graciés, c'est ça qu'on est. On est sauvé par grâce, on est bénéficiaire d'une vie nouvelle en nous et on apprend à entrer dans cette vie-là. On apprend à marcher selon l'Esprit, pas selon un programme, pas selon nous-mêmes. On apprend à marcher selon une nouvelle identité qui nous a été donnée. Ce n'est pas une nouvelle identité qu'on apprend. Ce n'est pas un programme qu'on est en train de mémoriser. On apprend à marcher selon une nouvelle identité qui nous a été donnée gracieusement et qui est réalisée véritablement par la puissance de l'Esprit-Saint en nous. C'est ça, être uni à Christ. Et le baptême, bien, c'est un espèce de rite initiatique qui n'a pas une propriété surnaturelle en elle-même, mais qui sert à illustrer un événement surnaturel qui s'est passé dans ta vie. Tu ne te fais pas baptiser pour devenir chrétien, tu te fais baptiser parce que tu as reçu l'Esprit-Saint, tu es né de nouveau et tu veux illustrer ça. Tu veux afficher ça, tu veux poser un geste public pour afficher cette nouvelle identité que tu as obtenue en Jésus-Christ. Et c'est ça que signifie le baptême. Jésus a commandé à ses disciples d'aller baptiser dans Matthieu 28-19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un commandement qui nous est donné. On doit baptiser. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Il y a des chrétiens, il y a des gens qui se convertissent puis qui tardent à se faire baptiser. Et je pense que souvent, c'est parce qu'ils ne réalisent pas l'importance du baptême. Le baptême, ce n'est pas un T-shirt que tu portes pour dire « Hey, je fais partie de la gang de Jésus. » Non, fondamentalement, ce n'est pas ça. C'est que tu es en train de déclarer que tu as pris conscience que tu es une nouvelle personne. Parce qu'il y a une nouvelle personne en toi. Tu as revêtu une nouvelle identité. Et donc, c'est ça que tu es en train de confirmer devant l'Église qui est témoin. Tu es en train de confirmer, moi aussi j'ai cette identité-là. J'ai été baptisé en Jésus-Christ. C'est frappant dans Galates 2, 26-27, on lit ceci. car vous êtes tous fils de Dieu, filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lorsqu'on baptise les gens, on les baptise soit au nom de Jésus, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit les deux dans les Écritures. Donc, on va baptiser au nom de quelqu'un, mais l'apôtre Paul emploie une autre expression ici. Il dit, vous avez été baptisés en Christ, vous avez été baptisés en lui et vous avez revêtu Christ. Il y a quelque chose de plus que d'être baptisé en son nom. C'est pas simplement quelque chose qui est fait en ma faveur. C'est quelque chose qui se produit en moi parce que moi, je suis en lui. Il y a quelque chose de beaucoup plus intime qu'un certificat de pardon qu'on t'enverrait par la poste. Quand tu rentres dans un club, tu reçois ta carte, puis tu fais partie de ce club-là. Tu n'as pas reçu un certificat de pardon. Tu es devenu une nouvelle personne parce que tu as été baptisé en Jésus-Christ. Tu as été immergé en lui et tu as revêtu Christ. Souvent, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est comme apprendre à vivre autrement. C'est définitivement ça, mais c'est infiniment plus que ça. Souvent, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est comme mettre un costume puis dire, il y a une expression, fake it till you make it. Merci. On a du monde ici. Cette semaine, j'arrive au bureau, puis il y avait deux policiers dans l'entrée juste là. Puis j'avais mes paquets, tout ça, j'étais pressé, puis souvent j'arrive, il n'y a personne, fait que j'étais en délit flagrant. J'avais pas mis mon masque parce que j'avais les deux mains pleines. Fait que j'arrive puis je vois deux policiers là-bas, je me retourne en hypocrite que je suis, je dépose mes paquets, j'enfile mon masque, puis là je dis je vais quand même aller voir les policiers. Fait que je m'approche des policiers, puis je dis bonjour, est-ce que je peux vous aider? Puis là pour me rappeler que c'était pas des policiers, c'était deux acteurs de District 31 qui venaient de tourner une scène au Café Crème. Fait qu'ils ont dit non, ça va, on attend notre livre pour tourner, pour retourner chez nous, on a fini notre scène. C'était pas des policiers, c'était des acteurs qui avaient enfilé un costume. Ben comme chrétien, lorsque Paul nous dit qu'on revêt Christ, on n'est pas des acteurs qui vont revêtir un costume. C'est pas ça qu'on est. C'est drôle parce que si j'avais été vraiment attentif, c'est comme ces petites scènes-là sont tellement drôles que tu repasses dans ta tête. Hein? Si j'avais été attentif sur le moment, j'ai deux policiers en costume qui sont là, puis je les approche, puis ils sont totalement relax. Les deux étaient assis. Ils se sont à peine tournés vers moi quand je t'ai rendu comme à un pied et demi d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà approché un policier que vous ne connaissez pas qui est en uniforme. Assez vite, il tipote, puis là, il dit ami, ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Très conscient de son uniforme. Parce que son uniforme, c'est son identité à ce moment-là. Il est un policier, c'est réel. Moi, j'avais deux acteurs devant moi. Ils ne se rappelaient même plus qu'il y avait un costume de policier. Donc, pour eux, ils sont la personne qu'ils sont. Quand je suis baptisé en Jésus-Christ et que je revêt Christ, je ne suis pas un acteur qui enfile un costume. Puis de temps en temps, je me regarde dans le miroir. Oh, c'est vrai, aujourd'hui, je suis chrétien. J'ai mis mon costume de chrétien. Non, c'est une nouvelle identité que j'ai reçue. Parce que je vis dans une union avec Christ. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit en moi où je suis uni avec Jésus-Christ. Il nous dit qu'il nous donne son esprit. Cet esprit-là est appelé l'esprit de Christ. Il habite en moi. Il y a une union permanente, éternelle. Il est en moi. Et cette vie-là, il veut la réaliser en moi. Donc, lorsqu'on parle de marcher selon l'Esprit, lorsqu'on parle d'être rempli de l'Esprit, de marcher selon l'Esprit, non selon la chair, à quelque part, on est en train de dire, ce que j'ai besoin, c'est de laisser la place à l'Esprit-Saint plutôt que d'y aller toujours par moi-même. Et c'est pas que je ne suis pas Yannick. J'ai peut-être les mêmes hobbies, les mêmes couleurs que j'aime, le même genre musical que j'aime. J'aimais du jazz avant d'être chrétien, j'aime encore du jazz. Ça change rien. Ça change quelque chose de profond dans tout ce que j'ai comme vertu, comme caractère. Et souvent, je suis émerveillé de voir à quel point Christ a changé des choses dans ma vie. D'autres fois, je suis découragé de voir combien il y a tellement de choses encore à changer dans ma vie. Mais si j'oublie cette nouvelle union que j'ai avec Christ, bien, quand je suis découragé de ce qui n'est pas changé dans ma vie, je vais aller devant le miroir et je vais dire, bien, c'est ça, hein, tu es juste un comédien, toi. C'est un soute que tu portes le dimanche, c'est pour paraître. Alors que si je me rappelle mon union avec Christ, je vais me tourner vers lui et je vais dire, Seigneur, j'ai besoin que tu sois plus apparent et que je le sois moins, Seigneur. J'ai besoin de m'effacer. J'ai besoin que toi, tu prennes toute la place. J'ai besoin de grandir dans la grâce et dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a lu tantôt, Julie nous a lu Romains 6. Paul va un peu plus loin dans cette idée-là qu'on est baptisé en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez les versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça pourrait être symbolique jusque-là, mais il va plus loin que ça. Il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et toute la suite du chapitre 6 que Paul va s'appliquer à nous communiquer, il va dire, acceptez cette nouvelle identité-là que vous avez. Vivez conformément à cette identité que vous avez. Le péché n'a plus les droits qu'il avait sur vous. Votre ancien style de vie, votre vieille nature, la chair, comme on a dit au début de la série, ne possède plus les mêmes droits sur toi. Pas parce que tu as reçu un certificat seulement, mais parce que Christ est en toi. Et donc, Paul est en train de nous dire à quelque part que lorsqu'on se fait baptiser, on est en train de célébrer le fait qu'un événement historique qui s'est passé dans la vie d'un être humain, Jésus de Nazareth, un être humain surnaturel, Jésus-Christ, cet événement-là qui remonte à 2000 ans, bien, d'une certaine manière, je m'identifie à ce que lui a expérimenté parce que je suis mort en lui, je suis mort avec lui. Lorsque je place ma foi en lui, j'accepte que sa mort sur la croix pour mes péchés entraîne ma mort à moi au péché. Est-ce que ça fait du sens? Sa mort à lui sur la croix pour mes péchés entraîne ma mort à moi au péché. Et donc, le péché n'a plus le même pouvoir sur moi. Il n'y a plus ces droits-là. Et Paul, ce qu'il fait dans Romains 6, il nous dit, maintenant, entrez dans cette vie-là. Pas par vos propres forces, par la grâce. Réalisez qui vous êtes. C'est intéressant, quand tu prends le temps de méditer ça, tu réalises qu'un chrétien cherche à pécher de moins en moins, plus il grandit dans la grâce, pas premièrement parce que c'est mal de pécher, mais parce que c'est contre sa nature de le faire. C'est contre la nature de Christ de pécher. Puis plus je grandis dans la grâce, je regarde les mêmes textes dans les Écritures, les mêmes textes qui m'aident à discerner le bien et le mal, puis je m'abstiens du mal de plus en plus, pas premièrement parce que c'est mal, mais parce que j'ai une nouvelle nature. Christ habite en moi. Et c'est contre nature pour Christ de pécher, ce l'est de plus en plus pour moi, au fur et à mesure que je grandis dans la grâce. Mon rapport à la loi est profondément modifié parce que je n'ai rien à offrir à Dieu pour prouver ma justice, sinon Jésus-Christ. Je disparais derrière Christ, puis je le laisse avancer. Et sa nature se manifeste de plus en plus. C'est ma nouvelle nature. Je suis uni intimement, personnellement à Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner une autre implication super intéressante pour l'Église. Dans Éphésiens 4, versets 5 et 6, il y a un passage assez énigmatique, mais en même temps vraiment intéressant. Paul dit, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Un seul Dieu qui est en tous. Je reviens dans le passage de Galates 3, 27, 28. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Il y a beaucoup de conflits dans les églises. Hein? Beaucoup d'églises qui se divisent, il y a des tensions. Puis là, on se dit, OK, il va falloir qu'on s'accorde, puis on cherche à se pardonner. Puis là, on cherche l'unité ensemble. Puis on cherche à s'entendre. Maintenant, notre unité à nous, comme chrétiens, ne vient pas du fait qu'on est d'accord les uns avec les autres. Je peux être en désaccord avec toi, puis être tout aussi uni à toi. Parce que notre unité vient du fait que la même personne habite en chacun de nous. La même personne, c'est pas Jésus qui s'est multiplié dans des milliards de petits Jésus puis envoyé plein de petits esprits saints dans chacun. C'est une personne qui est en toi et moi, et dans un sens très réel et spirituel, toi et moi, nous avons la même identité. Donc, lorsqu'il y a un manque d'harmonie dans l'Église, je ne devrais pas aller en disant, là, l'Église est désunie. Non, elle est d'une manière très unie encore. On n'est pas unis physiquement ce matin. Et pourtant, nous sommes très unis, même si tu es loin de moi. Même si tu es chez vous, même si tu es à l'autre bout de la planète, même si tu n'es pas de notre assemblée locale, tu es d'une autre assemblée, si tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi et moi, nous avons la même identité, qu'on soit d'accord ou non. Et donc, lorsqu'il y a des problèmes d'unité dans l'Église locale, la première chose qu'on doit chercher à faire, c'est de se rappeler que nous avons la même identité, la même personne habite en nous deux. Peu importe qu'on soit d'accord ou non, c'est bien d'étudier les Écritures, c'est bien de chercher à s'entendre sur ce que les Écritures enseignent. C'est important de le faire. On veut être d'une même pensée. Mais voici comment je l'ai résumé. Nous ne cherchons pas un esprit d'équipe. Nous sommes l'équipe d'un seul esprit. Nous sommes tous habités de l'esprit de cette équipe-là. J'ai pas besoin de chercher à avoir un esprit d'équipe avec l'Église. Si vraiment j'avais besoin de trouver un esprit d'équipe avec l'Église, ça serait peut-être parce que je ne suis pas chrétien, je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, on est l'équipe d'un seul esprit qui habite dans chacun de nous. Et donc, si tu as cru en Jésus-Christ, puis tu es un chrétien qui va super bien, puis être dans ta présence comme c'est super édifiant, c'est agréable, j'ai le goût d'être avec toi, tout ça, on est unis. Si en même temps, tu vas vraiment mal spirituellement, tu as pris une débarque, tu essaies de revenir, ta vie est tout croche, c'est comme, tu te dis, je ne sais pas si je devrais aller vers les chrétiens. Mais si tu as l'Esprit de Christ, tu es déjà uni à moi, quelle que soit la qualité de ta vie spirituelle. Si tu es chrétien, tu es uni à moi. Que ta théologie, ta connaissance des Écritures soit super mature ou non, ça ne change rien. Et c'est ça qu'on célèbre à travers le baptême. Quand je me fais baptiser, ma théologie est tout croche. J'espère que tu ne vas pas attendre 25 ans avant de te faire baptiser. Ça serait triste. Non, je vais attendre de tout comprendre la Bible. Puis quand je vais être un chrétien, ça accroche, je vais aller me faire baptiser pour dire à Jésus, « Regarde comment je suis beau! » C'est pas l'Évangile. Non, tu te fais baptiser au début, c'est n'importe quoi, tu es tout mêlé, tu ne sais même pas où trouver tes livres dans la Bible. Puis tu es là, puis tu dis, « J'ai compris Jésus, c'est mon salut. » Mais on est parfaitement unis en Jésus-Christ, toi et moi. Parce que la même personne habite en toi et moi. C'est vraiment puissant. Et donc, lorsque je me réunis avec des frères et sœurs, lorsqu'on s'appelle, on s'écrit, lorsqu'on s'écrit sur Facebook, puis qu'on a des désaccords, le fait que le même esprit habite en toi et moi devrait faire toute une différence dans ma manière d'interagir avec toi. Une humilité, mais non seulement de l'humilité, de l'amour, parce que l'Esprit de Christ habite en toi. C'est vraiment extraordinaire comme vérité biblique. Et le baptême nous a été donné pour se rappeler de ça. C'est un rituel symbolique. Il symbolise notre union à Christ. Nous sommes unis dans sa mort pour nos péchés et nous serons unis dans sa résurrection. Et déjà, sa vie est en nous. C'est une vie nouvelle qui est là. Et ce qu'on veut apprendre en 2021, c'est à marcher selon l'Esprit. En entrant dans cette vérité-là. Seigneur, tu es en moi, tu es avec moi. Je ne suis jamais seul. Et quand je suis déçu de moi-même, je veux juste m'effacer un peu puis te laisser toi prendre la place. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, bien, c'est ça qu'on est en train de faire. En souvenir de lui, on est en train de revenir constamment à ce qu'il a fait pour nous, à cette nouvelle identité-là. Dans Luc 22, versets 19 et 20, on lit... Ensuite, il prit du pain, c'est Jésus qui fait ça, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » En mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et puis Paul, plus tard, dans 1 Corinthiens 11, va enseigner sur ça. Il va dire, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Et donc, l'apôtre Paul nous instruit à continuer à pratiquer ça. Pourquoi est-ce qu'on prend le repas du Seigneur régulièrement? C'est en mémoire d'eux. Maintenant, une des fautes qu'on fait avec l'Évangile, lorsqu'on ne comprend pas bien notre union à Christ, c'est que, par exemple, je vais prendre le repas du Seigneur, puis je vais me dire, ça sert à me rappeler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, puis de ce que Jésus a fait pour moi, puis je vais commencer à adorer Jésus, mais ça va s'arrêter là. Je reste comme en surface du repas du Seigneur. Je dirais que je reste en surface de l'Évangile. Ça, c'est vraiment l'ABC de l'Évangile. Je comprends ça, je suis chrétien. J'ai cru en ça, je suis chrétien. Mais tu es vraiment à l'ABC. Il y a tellement plus que ça. Et je vais essayer de l'illustrer comme ceci. Moi, je ne suis pas un immigrant, je suis un fils d'immigrant. D'accord? Mais je ne suis pas un immigrant récent, disons. Lorsque tu émigres puis tu t'en viens au Canada, pour en avoir parlé avec des immigrants qui sont ici depuis longtemps, bien au début, je veux dire, ton identité, c'est ta terre d'origine. Puis tu es un visiteur au Canada. À quelque part, dans ton expérience, tu te sens pas chez toi. Mais pour un grand nombre d'immigrants, puisqu'ils ont choisi de venir au Canada pour un système de valeurs, pour des choses qui sont différentes, pour une qualité de vie, pour quelque chose qu'on va vivre comme citoyen, après 5, 10, 15 ans, définitivement, ils ont maintenant adopté l'histoire du Canada comme l'histoire d'un système de valeurs. Ils sont Canadiens pour les valeurs que ça comporte. Et donc, même si le Canada est plus vieux que ma nationalité, les souvenirs de ce que c'est le Canada dans son histoire sont intégrés à mon histoire. On vit la même chose comme chrétien. Moi, je suis devenu chrétien quand j'étais à la fin de mes 18 ans. L'Église a 2000 ans d'histoire. Bien, plus j'ai grandi à connaître l'histoire de l'Église, à lire ce que des chrétiens ont écrit il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 1500 ans, plus leur histoire est devenue mon histoire à moi. C'est mon identité. Mais je ne suis pas né chrétien. Je suis né tout sauf chrétien. Ce n'était pas mon identité, ça. Et pourtant, maintenant, l'histoire de l'Église, c'est mon identité à moi. Bien, quand on prend le repas du Seigneur, ce n'est pas simplement pour se rappeler de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Puis on dit, « Merci Seigneur, j'ai reçu mon certificat de pardon. Je sais quand je vais me présenter au ciel, j'ai juste à sortir ça. Passport for heaven. » Non, c'est autre chose. Ce qui s'est passé là lorsque Christ est mort à la croix, c'est ma réalité à moi parce que j'ai été baptisé dans sa mort. Et donc, lorsque lui a subi le jugement divin et qu'il s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Moi, je sais qu'il est en train de prendre mes péchés à ce moment-là. Et je suis baptisé dans sa mort. Lorsqu'il ressuscite des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. On célèbre le repas du Seigneur, pas simplement pour se rappeler d'un événement qui date il y a 2000 ans, mais pour célébrer notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Ces deux symboles-là sont précieux. Ils sont d'une simplicité incroyable dans leur pratique. Tu crois en Jésus-Christ, on remplit un bassin d'eau. Tu professes, tu déclares ta foi en Jésus, puis tu es immergé dans l'eau, tu sors de l'eau. C'est simple. Le repas du Seigneur, c'est simple. On prend des petits bouts de pain, un jus de raisin, puis on se partage ça ensemble. Mais ces symboles-là sont précieux aux chrétiens. Ce sont des rites chrétiens, qui nous aide à entrer dans cette réalité de notre union avec Jésus-Christ. Concrètement, cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, cette semaine, ça veut dire, prends le temps de, de t'arrêter puis de demander au Seigneur très, très, très simplement. Je l'ai formulé comme ceci. Une prière que tu peux faire cette semaine. Plusieurs fois. Quand tu es déçu de toi, quand tu es découragé, quand tu n'as pas l'impression que la vie de Christ se manifeste en toi. Seigneur Jésus, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul parce que tu serais simplement à côté de moi. Je ne suis plus seul parce que tu es en moi par ton esprit. Aide-moi à marcher selon ton esprit, à te laisser toute la place aujourd'hui. J'aimerais ça prier pour l'Église pour qu'on puisse grandir dans la grâce cette année. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, trop souvent dans mon expérience chrétienne, je te vois comme le modèle parfait que tu es. Je te vois comme Dieu le Fils que je veux adorer et célébrer. Je te vois comme celui qui m'a fait la grâce de mourir sur la croix pour le pardon de mes péchés. Mais j'oublie de prendre conscience que tu es en moi. Par ton esprit, l'esprit de Christ habite en moi. Et Seigneur, je suis déçu de moi-même. Puis à quelque part, en faisant ça, en étant tellement déçu de moi-même, je détourne le regard sur toi. Je fixe le regard sur moi, sur ma performance chrétienne. Je te le confesse, Seigneur, ça brise ma joie. Ça me détourne de la grâce. Ça m'enlève la foi de croire que ce que tu as commencé en moi, tu vas le compléter. Seigneur, je te prie de nous aider en 2021 à vraiment entrer dans cette réalisation-là que nous avons une nouvelle identité. On n'est pas des acteurs. On n'a pas enfilé un costume. On a été vraiment baignés en toi, Christ, et nous t'avons revêtu. Tu es notre identité. Seigneur, je te prie de nous aider à grandir tranquillement cette année, dans cette vérité-là, à nous reposer dans cette nouvelle identité, croyant profondément que cette vie-là va se manifester en nous. Je te prie, Seigneur, pour quelques-uns des frères et sœurs dans l'Église qui souvent manquent de voir ça. Ils doutent tellement fort qu'ils voudraient voir. Ils ont l'impression que ce que les chrétiens autour d'eux vivent, c'est tellement plus riche, plus profond. Je te demande, Seigneur, de leur accorder la grâce, de revenir à ce principe de grâce. Que c'est toi qui as agi envers eux, c'est pas la qualité de leur foi. Ce n'est pas la qualité de leur vie chrétienne. Ce n'est pas la qualité de leurs émotions. Ce n'est pas la grandeur de leur exaltation qui va être la mesure de la présence de l'Esprit en eux. C'est le simple fait qu'ils ont cru en toi, Jésus. Et Seigneur, donne-nous de vivre en Église cette unité ensemble. Non sur la base de nos bons accords, non sur la base d'une conformité, Seigneur, dans notre doctrine parfaite, mais sur la base, Seigneur, du fait que nous sommes en toi et que tu es en nous. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen.